Denis Gravel qui est en studio. Qui est là, là? C'est la rentrée scolaire. J'ai-tu vu tes deux gars aller à l'école le matin, quoi?
Ben oui. Oh! D'ailleurs, je t'ai montré une photo. Il y en a un des deux qui est très heureux, puis l'autre l'est pas mal moins. Ils sont assez faciles à identifier.
Oui, oui, oui. Je pense que le plus petit est très, très heureux. L'autre, quand il va connaître ses chums là-bas, ça va être correct.
Oui, ben écoute, c'est la première année qui pleure pas une journée de retour à l'école.
Ah oui?
Fait que je me dis, tranquillement, on avance. Il est pas heureux, mais on part de loin.
Ouais. Ils connaissaient-tu les profs quand tu leur as annoncé la semaine passée?
Je les ai rencontrés hier, les profs.
Okay.
Fait que oui, là, ils savent c'est qui.
C'est ça. Nous autres, on l'a su la semaine passée, puis il y en a un des deux qui était pas content, parce qu'il y a un de ses chums l'année passée qui était dans cette classe-là. Puis ça a l'air que la prof était coussi-coussa. Fait que là, il nous a fait la gueule pendant une journée.
Pas de votre faute!
Ben, c'est parce qu'on lui a dit, ça se peut que tu sois correct avec cette prof-là. Mais
oui.
Lui, il était persuadé qu'il rentrait dans la classe de Satan cette année. C'est très drôle.
Ben oui.
Mais je me souviens pas, moi, si j'étais hyper heureux que l'école recommence. J'aimais beaucoup faire l'école buissonnière. Là.
À quel âge?
Écoute, je sais pas, 7, 8, 9 ans, là, on faisait l'école buissonnière, mm-hmm. Puis on essayait d'appeler sur le répondeur de l'école en disant « Oui, bonjour, c'est Monsieur Marceau!
» Moi, j'avais...
Yannick est malade! Ben!
Moi, j'avais hâte de recommencer.
Oui?
Je restais dans le bois. Puis, il n'y avait pas grand monde dans
le bois.
Hein?
Les
chums étaient loin. Même en bicycle, les chums étaient loin.
Joël Legendre, t'es-tu là?
Puis, non, pas dans ce genre de bois-là. Pas dans le parc, dans le bois. Mais la game, c'était tout le temps. Puis, je me souviens, là, c'était la run à bicycle pour aller à Boîte-à-Mal, qui était au bout du rang, pour aller voir si j'avais reçu ma lettre. Puis, dans la lettre, ben, t'avais le nom de ton professeur, puis t'avais le numéro de ta classe. Puis là, c'est là que tu savais si t'étais avec tes amis ou pas.
Mais ils sont rendus plus inventifs. Des fois, c'est un carton de couleur maintenant. Tu peux pas trop savoir c'est qui l'enseignant, dans quelle classe t'es.
Nous autres, il y avait une affaire, par exemple. Il y avait deux de nos amis qui étaient profs à l'école. Fait qu'eux autres, ils se faisaient appeler tout l'été.
Hein? T'avais des amis adultes, enseignants. C'est super louche.
Non. On était amis avec des enfants de professeurs. Saint-Fulgence.
Ah!
Je veux dire, t'es prof à l'école à Saint-Fulgence, tes enfants vont à l'école à Saint-Fulgence. Il y a une école au singulier.
Ouais. T'es aussi le propriétaire de la station d'essence.
Ça ressemble à ça.
Comme à l'épicerie.
Oui, fait que nous autres, les fils de professeurs, tout l'été, ils se faisaient appeler. Puis les classes sont-tu faites? C'est-tu moi qui est dans ta classe? C'était le bon vieux temps.
Exact. Tes gars prennent-tu l'autobus? Moi, mes gars prennent
l'autobus
à Sainte-Marie. Ils sont sur le territoire de Sainte-Marie, donc on ne défraie pas de coûts supplémentaires. Puis j'apprenais ce matin, sous la plume de Daphné Dion-Vien, qu'il y a à peu près un millier de parents là, qui vont devoir payer plus cher pour le transport scolaire cette année en raison des restrictions budgétaires qui sont imposées par le ministère de Bernard Drainville. C'est le cas, entre autres, du Centre de services scolaires de la Capitale. Il y a 1300 familles qui seront facturées. Et quand on regarde qui sera facturé, qui il sera pas, bien, ceux qui seront facturés, c'est les gens qui sont situés à l'extérieur du... Bien, en fait, hors de leur quartier. Donc, ceux qui sont hors du quartier de l'école,
mm-hmm.
eux autres vont être facturés. Et ceux qui sont trop près de l'école, qui prenaient l'autobus quand même, vont être facturés. Et là, il y a des pères qui disent, bien non, mais ça devrait être gratis. Les amis, il n'y a jamais rien de gratis.
C'est ça qui arrive. Mais c'est choquant pour quelqu'un qui ne payait pas, qui du jour au lendemain se fait dire « ben là, tu payes ». Je veux pas minimiser ça. Je sais qu'il y a des histoires horribles. Je pense qu'il y a une auditrice qui a écrit ce matin pour dire « nous autres, on en a 5 enfants. »
Ouais.
Puis à la même adresse, pour aller à la même école, il y en a un qui ne paye pas son autobus, puis l'autre paye.
Qu'ils ont mêlé un peu.
C'est parce que c'est des familles recomposées, là.
Ah.
Mais tu comprends qu'ils partent tous de la même maison pour aller à la même école.
Oui.
Il y en a un que c'est gratis, mais pas l'autre.
C'est pas gratis! Arrêtez de dire c'est gratis!
C'est jamais gratis. Mais, tu sais, dans Le Soleil, ce matin, là, il raconte l'histoire de jeunes qui étaient acceptés dans un programme sport hockey de haut niveau.
Oui.
Puis eux autres se sont fait dire, il y a 3-4 jours, que finalement, à cause des coupures, sont pas admis. Il y en a 7 ou 8 qui se retrouvent dans cette situation-là. Écoute,
ils sont pas admis dans le transport ou à l'école?
Yann, là, je te parle d'école. OK? Secondaire 5. T'as sacrifié ton hockey civil pour faire ce programme-là. Tu peux pas faire les deux. Il est trop tard pour t'inscrire au hockey civil. Il y a des parents super inquiets qui disent « Moi, c'est le sport qui garde mon flow ben à oui. l'école. » Là, on se retrouve le bec à l'eau. Ouais. Non seulement le programme pour lequel il était accepté, ça ne marche plus, puis ils disent que c'est à cause des compressions. Je trouve ça brutal.
Ouais. Ça, on va se le dire, c'est un peu cave. Là.
Complètement.
À quelques jours, avertir l'élève comme quoi, ben garde, t'es accepté dans le programme sport hors études, là, finalement, ça marche plus, bye. Mais moi, je parle du transport. T'sais, le père dit, là, c'est un service qui devrait rester gratuit si le programme n'est pas offert à l'école de bassin. Lui, sa fille s'est inscrite au programme d'éducation internationale de l'école secondaire Jean-François Perrault. Là, je sais pas si lui, il est hors secteur ou s'il est tellement près de l'école que faut qu'il prenne, t'sais, que sa fille pourrait y aller à pied. Mais il y a ça aussi. Il y a des parents qui prenaient quand même l'autobus, qui faisaient prendre l'autobus à leurs enfants, alors que c'était 2 minutes de marche.
Ben, c'était
mais
comme...
C'est pas juste 2 minutes. Moi, pour l'avoir vécu avec des parents séparés dans 2 villes, il fallait que j'aille à une école, dans une école secondaire hors bassin. Quand j'étais chez mon père, là, c'était hors bassin, Côte de Beaupré, la Courvilloise. Puis quand j'étais chez ma mère, c'était 2 kilomètres faciles à marcher, là. Puis j'étais considérée comme étant assez proche pour pas avoir de transport scolaire. Fait que 2 à 3 kilomètres, si je me trompe pas.
Mais t'avais quel âge?
J'étais au secondaire.
OK, je pense que c'était correct.
2 kilomètres, oui.
Mais, oui. Mais, oui, mais au primaire, c'est la même chose pour certains aussi. Fait que là, on parle secondaire, ouais. Mais primaire aussi, parce que les kilomètres sont au même compteur.
Si j'ai bien compris, c'est que les règlements restent les mêmes. C'est juste qu'avant, on les appliquait pas. C'est un peu comme l'alcool là, d'un dépanneur. Là. C'est marqué 18 ans et plus, mais ça a l'air... T'es capable de t'en trouver.
Il y avait une certaine souplesse, puis on acceptait à peu près n'importe quoi, mais c'est des services qui se payent, ça, que le père dise « Ouais, mais là, ma fille, ça devrait être encore gratuit. » Je comprends. Puis, c'est-tu notre génération qui sommes un peu têteux? Tu sais, je t'en ai parlé. Moi, j'ai de la misère à ne pas voir mes gars marcher jusqu'au bout du rang. Puis, tant on s'entend que l'autobus n'est pas passé, ben là, je fais pas rien d'autre que les observer. C'est-tu moi qui ai rendu trop momoune? Tu sais, faire marcher ton enfant 2 kilomètres, s'il y a un trottoir tout le long, s'il y a
des brigadiers
tout le long,
ben oui.
Ils sont pas en Ukraine, sacrament.
Puis, moi, je veux pas tomber dans la...
Ils sont pas dans la bande de gazon.
Non,
là,
mais tu sais, je veux pas tomber dans le discours des bonhommes, là, les journées de tempête. Là, comme
on marchait 10 kilomètres!
On marchait 10 kilomètres nu-pieds, puis on mettait du bois dans le poêle au début de la journée des cours. Là.
Ouais.
Mais quand j'étais jeune, moi, j'aimais pas l'autobus. Puis de mon initiative, j'ai commencé à aller à l'école à pied, puis j'étais à 2,5 km. Il y avait un boulevard à traverser, il y avait une brigadière qui était là entre telle heure et telle heure, puis mes parents me donnaient la permission. Je sais pas s'ils me suivaient en cachette.
Fait que 2 kilomètres, ça te prenait quoi? 10-15 minutes à peu près?
Oh, je traînais beaucoup de la patte. C'était une demi-heure. Une demi-heure bien sentie, là, mais c'est parce que moi, c'était le fun. Là. Je veux dire, on se ramassait 2-3 chums, puis on y allait tranquillement. On allait chercher de la gomme au dépanneur sur le fly. Je veux dire, on étirait la run le plus possible, là, mais c'est pas... c'était voulu, là.
Mais c'est ça, de voir que bon, 1300 personnes vont se voir facturer alors qu'ils pensaient pas l'être, mais vous avez bénéficié d'un service que vous auriez pas dû bénéficier avant. Là, on a décidé de resserrer les règles. Mais cette mentalité-là de penser que l'hôpital, c'est gratis, l'école, c'est gratis. Moi, quand je regarde mon talon de paye amputé, là, l'argent qui part, là, je le revois pas toujours. Là.
C'est sûr qu'il y a quelques situations qui ont aucune logique. Puis il commence à avoir des gens qui sortent. T'sais, des enfants qui restent à la même adresse, qu'il y en a un qui paye, que l'autre ne paye pas. Il y a des affaires à démêler là-dedans. Mais le reminder est bon. Je veux dire, ce n'est pas un service qui est gratis à la base, qui commence à appliquer les règlements. Est-ce qu'ils auraient dû le faire avant? Tu n'as pas de notion de droit acquis. Là. Hey, moi, ma fille, elle y allait, puis ça ne coûtait rien. Oui, mais c'est parce que le règlement était en place, puis il décidait de ne pas l'appliquer. C'est sûr que pour certains, c'est pas juste, mais comparez-vous à d'autres. C'est pour ça que j'utilisais l'histoire du hockey à l'école. Il y a des gens qui se retrouvent le bec à l'eau sérieusement plus que ça. Là, le transport, il est là. Faut juste que tu le payes. Ça coûte-tu une beurrée? Oui. C'est-tu un peu pas mal crissant? Oui, mais en compression, il y a toujours du monde qui écope à quelque part. Puis j'imagine que vous aviez vu pas l'autobus, mais que vous aviez vu le train venir un peu, là.
Commission Galant, ça a brassé avec Geneviève Guilbeault, c'est la semaine dernière, c'est vendredi que ça a brassé. Là, actuellement, il y a un ex-sous-ministre qui est là, Pierre Eurodré, qui devrait avoir terminé son témoignage. Et cet après-midi, ce serait Éric Kerr qui prendrait place. Et l'ancien bras droit du ministre Éric Kerr a révélé ce matin, devant la commission Galant, avoir reçu plusieurs mystérieux textos dans la foulée du fiasco Saclic qu'il menaçait, lui, de lui mettre tout sur le dos. concernant ce dit scandale. Pierre E. Rodrigue s'est confié sur cette mystérieuse série d'événements qu'il dit avoir finalement raconté aux enquêteurs de la commission par cas de conscience. Il dit que, bon, le but, permettre à de plus petites firmes de soumissionner et rendre le projet plus profitable pour l'État. Dans certains cas, j'étais peut-être allé un peu fort avec les firmes avec qui je jugeais qu'on n'en avait pas pour notre argent. C'est dans ce contexte qu'il dit avoir reçu 3 ou 4 textos anonymes. Dont des textos anonymes, ça vient d'un téléphone avec d'un numéro, j'imagine.
Oui, c'est retraçable.
Dont il juge alors que le ton, comme bienveillant, son interlocuteur lui indique qu'ils veulent lui faire perdre son emploi et qu'il allait le protéger, sans précision sur l'identité de tous ces intervenants-là.
Il les a-tu encore, les textos?
Ben, il dit qu'il en a parlé aux enquêteurs. J'imagine que les enquêteurs ont réussi à trouver c'était qui. Visiblement, c'est pas ce matin qu'on apprendra c'était qui. Est-ce que quelqu'un a peur que je parle de quelque chose à la commission? Se questionne-t-il? Je cherche des raisons pourquoi quelqu'un voudrait s'attaquer à un fonctionnaire de carrière qui ne fait que son travail, jugeant qu'il n'était alors pas assez cher payé pour recevoir ce type de message-là. En passant, les sous-ministres, c'est du 250 000, 350 000 par année.
Quoique, recevoir des menaces, là, faudrait que tu me payes plus cher que ça.
Le commissaire Denis Galland a conclu l'échange en jugeant l'affaire tellement sérieuse et répondant aux témoins qu'elle pourrait être confiée à un corps policier pour enquête. Ah, j'aime ça.
Et oui, François voir Legault, d'où ça vient.
Et il y a François Legault, comme Pascal nous apprenait tantôt, qui a dit qu'il allait attendre un peu avant de commission, parler de ce qui se passe à la commission Galland. Il allait attendre encore quelques jours là, pour dire qu'est-ce qu'il pensait de cette commission-là. J'imagine que c'est ce que ses conseils lui ont dit de faire. On ne sait pas trop ce qui va sortir. On s'ajustera en temps et lieu.
Éric Kerr n'a jamais été autant puissant qu'il va être puissant cet après-midi. Là, il est en position de se négocier un gros ministère, un gros retour sur le prochain remaniement.
Non, mais tu peux pas le ramener, là. Tu peux pas le ramener, là.
Écoute!
Mais non!
Tout non. Se voit et tout se fait en politique.
Ah, oh, ça devient intéressant. C'est pas le débat qu'on avait avant que t'arrives.
Tu as fait faire le walk of shame.
Oui.
Puis là, t'es en train de dire que François Legault pourrait dire « Ben, finalement, tu nous as aidé, mon beau Éric, on va te remettre au Conseil des ministres. »
Puis en plus, ça va être sous l'œil du public où il va avoir rédemption si jamais il y a. Denis, merci. J'avais aucune attention d'Yannick Marceau avec ce commentaire-là.
Aucun moi, je pense flair que c'est politique. Là.
Peut-être,
aucun
c'est flair peut-être politique. Possible.
Avec,
selon ce qu'il va dire.
Avec toutes les informations qui étaient dans les journaux de ce matin, Éric Kerr est en position de dire « Moi, je le savais. » J'ai manifesté des inquiétudes et à la lumière des témoignages des 2 dernières semaines, je suis le seul qui savait qu'il y avait des inquiétudes et personne d'autre a rien fait.
Et on ne m'écoutait pas. Puis en plus, j'ai fermé ma trappe parce qu'on ne l'a jamais entendu dire quoi que ce soit contre personne à
non.
ce moment-là.
À date,
j'ai été bon joueur et je savais que mon heure allait venir
bon
pour
chien.
Dire la vérité.
Bon chien, Éric Kerr.
Mais
bon
Denis,
chien.
Qui ne l'écoutait pas?
Who care?
Hein?
Qui ne l'écoutait pas?
Tu veux dire?
Ben, qui écoutait pas Éric Kerr? S'il dit, moi, je savais tout,
ben,
je
s'il disais
a lancé, les choses, il y a personne qui m'écoutait,
ouais.
qui l'écoutait pas?
Ben, il y a
t'en
moins,
deux.
Au
t'as Martin Koskinen,
oui.
puis t'as François Legault.
Ah, oh, puis écoute, tu peux ajouter les deux ministres des Transports qui sont passés la semaine passée aussi, là.
Donc, François Legault dirait... Il dirait, ben vu que t'as pitché en dessous de la remorque, Martin Koskinen m'a donné une job de ministre.
Décidément, il n'a pas trop écouté Geneviève Guilbeault aussi. Là. On l'a entendu témoigner à la commission Galland, puis il y avait un courriel qui est sorti comme quoi, elle dit « J'arrête pas de dire qu'il y a de l'incompétence, en parenthèse, dans ce maudit fiasco de sa cuclique-là, puis il n'y a personne qui lève vraiment la main. »
Moi, tout ce que je te dis, c'est que si cet après-midi, Éric Kerr témoigne en nono, comme Geneviève Guilbeault a fait, puis comme l'autre d'avant a fait, sois pas surpris si la semaine prochaine, on y a trouvé un ministère comme par magie. Si tu crois au hasard à Yannick Marceau, va au casino.
Qui disait ça?
C'est bon.
OK, je fais un deal avec toi. Si Éric Kerr revient comme ministre dans les prochains mois, là, d'ici la fin du mandat de François Legault, là, je donne 100$ à l'organisme de ton choix.
C'est bien parfait.
Okay. Je suis pas riche, fait que...
C'est un bon...
Quand je prends des paris, je m'organise pour être capable de les gagner.
Je te dis pas que ça va arriver. Je te dis, il est en position de faire mal paraître le gouvernement au grand complet.
Exact.
Parce que toute l'information accumulée présentement le place en position de connaissance et... Il a réagi de façon inquiète, puis il aurait averti du monde. Il n'a pas gardé ça pour lui.
Si j'étais son ami, là, son ami proche, ce que je ne suis pas, ce que je ne serai jamais, je lui dirais, c'est le temps de dire toute la vérité. Tout ce que tu sais, c'est le temps de le dire pour que tu puisses te retrouver une job après. Parce que lui, sa job de député, c'est terminé. Je ne sais pas si tu as regardé les chances de gagner dans la circonscription de la Pelletrie. Sont nulles, il ne se représentera pas.
Puis tu peux aller loin là, dans tes déclarations.
Donc, si tu veux un autre job... Ouais. vas-y, dis toute la vérité.
Pendant des mois, j'ai été l'idiot utile du gouvernement. Pendant des mois, je me suis fermé à la boîte. Là, c'est le temps que je parle. Exact. C'est le temps que Éric Kerr ait son moment pipe bomb.
Si c'est le cas, c'est le roi est mort, vive le roi. Sapristi.
Mais c'est pas ça qui arrive. La politique, tu veux garder ta job, tu veux t'accrocher, tu veux garder tes contacts.
Je m'en souviens pas. Je n'ai pas l'expérience mémorielle.
Expérientielle.
Expérientielle de se souvenir.
Il se souviendra même pas d'avoir été inquiète à un moment donné. Là. À date, partout ce qu'on aurait pu avoir du show, on a eu un triste spectacle.
On en sait un peu plus sur le fameux trou. Là, sur la 40 à la hauteur de...
La grotte.
Oui, Joliette, là, dépassée entre Berthierville puis la Noraie. C'est un gros, gros détour qu'on a à faire. Là, de ce qu'on sait, Pascal, c'est qu'il y a une voie sens contraire qui est ouverte sur la 40. Sinon, il faut que tu passes dans les villes autour, donc pour le détour. C'est un gars qui s'occupait du gazon, de l'entretien du gazon, qui a vu le trou, puis qui s'est dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il s'est approché. Il a filmé l'intérieur du trou, puis il s'est aperçu qu'il y avait une drop d'à peu près 15-20 pieds. Puis ce qu'on sait, c'est que le ministère des Transports, Denis, avait été informé en juin dernier qu'il y avait un trou qui était lié au même ponceau, mm-hmm. à cet endroit-là. Puis il n'y a personne qui semble avoir daigné s'être rendu.
Il y a un ministère qui est responsable de s'occuper des autoroutes, puis c'est un gars qui coupe le gazon. Qui a peut-être sauvé des vies en fin de semaine, parce qu'il y aurait eu une tragédie. Là, je veux dire, on serait passé à travers. Il y a des camions, il y a des chars qui seraient tombés dans le trou. Si c'est une autoroute, il y aurait eu un effet domino incontournable.
T'as-tu encore l'impression, Yann, que là, il se tourne les pouces? Parce que là, c'est clairement le problème est plus gros qu'on pensait.
Ouais, moi, je pense que c'est le temps des vacances. Il y a eu du laxisme. Mais écoute, le 20 juin, le ministère des Transports avait reçu un signalement.
On fera ça en revenant. Hein?
Pour le lieu précis qui va causer la fermeture de deux voies sur quatre sur l'autoroute 40 pour au moins quelques semaines.
T'as pensé à la même affaire que moi, tu sais, 20 juin, début juillet. Oh, on checkera ça en revenant, mais ça peut attendre.
Il pensait que ça allait être réparable en 24-48 heures. Là, on se rend compte que c'est pas le cas. Là. C'est 15-20 pieds à base qu'on voyait.
Un trou avait alors été vu sur l'accotement des observations que le ministère des Transports avait associées au ponceau. Un ponceau est une structure sous la route permettant à l'eau de ruisseler. Il y avait une recommandation le 31 juillet visant à procéder à des travaux sur le dit ponceau. Trois semaines plus tard, le MTQ a conclu que l'affaissement de ce même ponceau lorsqu'un mandataire a découvert samedi un trou béant sous l'autoroute. Pourquoi les travaux n'ont-ils pas été faits plus tôt? Tout le monde se pose la question.
Deux affaires là-dessus. La première, le gars du gazon... Lui, il était en mesure, avec son troc, de détourner la circulation. Fait que son premier réflexe, quand il voit le trou, c'est de faire en sorte que la circulation soit déviée. Mm-hmm. Puis un moment donné, ben, à force de regarder le trou, il s'est dit, moi, où ce que je dévie est char, là. C'est encore le trou, là. Fait que c'est là, là qu'ils ont tout bloqué à 40 à grandeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça me rappelle tellement ce qui est arrivé avec le pont au Saguenay. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'as un pont, n'a pas 20, n'a un. Bon, t'en as un et demi parce que tu peux traverser à Chipcha. Mais la plupart du trafic saguenéen passe de la rive nord à la rive sud par le pont qui est à la hauteur de Chicoutimi. Ce pont-là, il y a des travaux mineurs à effectuer. En faisant les travaux mineurs, on ouvre la structure. Puis à un moment donné, il y a un feu de nuit qui fait en sorte qu'on voit un petit peu plus profond à l'intérieur de la structure du pont. Le lendemain matin d'urgence, à la lumière de ce qu'on avait vu grâce au feu, c'est pas le feu...
À la flamme de ce qu'on a vu.
Oui, à la flamme de ce qu'on a vu, puis c'est pas le feu qui fait les dommages. Là. C'est important dans l'histoire. Les dommages, ils sont là. On les voit parce qu'il y a eu un feu. Le lendemain matin, la circulation est coupée, nette, fraîche, sec.
C'est un détour de combien de kilomètres?
C'était 1h15. C'était 1h15 de détour. Il y avait des gens qui se stationnaient. Tu sais, mettons que tu arrivais de la rive nord, tu avais un petit centre d'achat à côté, tu te parquais là, puis tu traversais à pied parce qu'il y a un pont pour piétons. Là. L'ancien pont qui levait à une certaine époque avec les bateaux qui passaient et tout, c'est resté un pont pour piétons et cyclistes. Mais les deux semaines pendant lesquelles on a fermé le pont à la circulation, c'est des semaines de décembre où la température était entre moins 30 et moins 35 degrés.
Les guerriers du Nord le faisaient à pied.
Sans compter le facteur vent. Il y avait une station de radio dans le coin au Saguenay qui avait eu l'idée brillante d'aller donner du café au top des deux rives pour encourager les explorateurs.
Mais tu sais, ça veut dire que ceux qui ont la frousse du pont Pierre-Laporte, du pont de Québec, puis qui se font ridiculiser parce que, mon Dieu, c'est correct, mais il y a quand même des débris, des affaires bizarres, ça lève, le carpote, tout ce que tu veux est étrange sur ces deux ponts-là. Ça pourrait donner quand même raison. Ah, puis ça me rappelle Bruno Perron, journaliste de terrain, un des vieux de la vieille qui faisait du terrain. À un moment donné, il reçoit un appel d'un résident de Boischâtel. Puis lui, il dit « Ma maison bouge. C'est bizarre, mais il y a quelque chose qui bouge. » Puis là, Bruno, il dit « Ben, on va voir en 2 heures, dans 2 jours, je vais venir voir. » Il était arrivé là, puis s'était rendu compte que c'est un peu le même phénomène que ce qu'on voit sur l'autoroute. Là. Il y avait eu infiltration d'eau, puis je viens de rechercher pour avoir les bons termes, là, dans les galeries souterraines, puis ça a creusé d'immenses cavités d'insurgence.
Je me souviens de ça. C'est en quelle année? Hein?
C'est de ce que je vois sorti pour aller voir en 2020, mais c'est sûr que c'est plus tard que ça, parce que Bruno Perron m'a raconté ça, ça devait être en 2017. Là.
Ouais.
Fait que reviens, mettons, début 2000, là, dans ce coin-là. Puis c'était tout ce qui était arrivé à Montmorency qui avait eu genre des cavités qui avaient fait passer de l'eau. Ça avait créé d'immenses affaissements de terrain dans le secteur de Boischâtel. Puis il y avait des grottes jusque dans Courville, Beauport. Puis
ça avait creusé par en dessous.
De l'activité karstique qui s'était passée. Mais ça, sans le citoyen, il dit oui, ça bouge bien.
Ça bouge
chez nous. On le sait pas. Puis sans Bruno qui s'en va là, qui Perron qui va voir, on le sait pas. C'est pas normal.
Écoute, dans le cas du ministère des Transports, si on regarde ce qui s'est passé en fin de semaine puis ce qui s'est passé à Saguenay il y a quelques années, c'est la même chose. On regarde en surface, on n'établit pas les bonnes conclusions, on ne fait pas les bonnes vérifications, on met la vie des gens en danger et c'est par hasard qu'on sauve le cul. Par hasard, des hasards qui ne sont pas reliés à ce que le ministère des Transports fait pour nous protéger sur les routes. C'est freak, hein, en tabarnouche.
Autour de 2014.
2013, sur le pont Champlain, il y avait une problématique. Il y a eu des bris et il y a un ingénieur qui jugeait le pont Champlain tellement dangereux qu'il a cru bon d'alerter les médias pour que les médias avertissent les gens dans leurs automobiles. Si vous passez sur le pont Champlain, ça peut être dangereux. Ben, selon les accusations qui ont été portées contre ce dit ingénieur, il aurait dû informer son employeur avant d'aller voir les médias et il a été congédié juste après avoir découvert le bris pour avoir omis de porter son casque de sécurité lors de cette dite inspection.
Ah, c'est con, ça!
Fait que le gars trouvait que...
Ah, l'insulte en l'injure!
Le gars trouvait que le pont Jean-Cartier était problématique. Il a décidé d'en parler avec un média. Le média a fait le papier, ils l'ont nommé. Le gars était attitré à ce dit pont-là depuis des années pour veiller à sa sécurité. Puis le gars, il s'est fait sacrer dehors.
Ça y apprendra, hein? Ça y apprendra à diffuser l'information.
C'est ça. Fait que ce trou-là, ça arrive, on se pose la question, là. Ça arrive, je sais pas moi, dans le secteur de New York, dans l'État de New York. On le répare en combien de temps? Quand je vais aux États-Unis, moi, ce qui me marque, là, c'est que les chantiers sont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ont-tu 2 quarts de travail ou 3 quarts de travail? Je le sais pas. Mais quand il y a des urgences sur des bons tronçons, là, des tronçons importants, tout le monde travaille pour que la job soit faite le plus rapidement possible. Dans ce cas-ci, on parle de quelques semaines, Denis.
Ouais. Ça va être interminable. Ça a duré à Chicoutimi. Ils ont été... Plus de 2 semaines à pas être en mesure de traverser sur les deux rives, à faire des détours puis à traverser à pied sur le pont des piétons. On n'est pas capable de prévoir ce genre de choses-là. On découvre des catastrophes par hasard. On a sauvé des vies. Mais tabarnouche, que ça, le temps va être long dans ce secteur-là dans les prochaines semaines.
Et je m'excuse d'apporter un point crucial, important de plus à cette discussion-là. J'ai pas mon ciel, je pense que je l'ai oublié de l'autre côté, mais récemment, j'ai un auditeur qui m'a contacté pour me parler de l'asphalte, de la qualité d'asphalte et le fait qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui, quand ils voient des travaux faits sur la chaussée à certaines périodes de l'année, on parle de l'automne, l'hiver et au printemps, s'insurge un peu en se disant « Ben, super, ça va tenir 3 mois. » Et si on est un peu lent dans notre façon de réparer où ça demande beaucoup plus de temps, qu'est-ce qui va arriver? On va réparer la chaussée pour des milliers et des milliers et des milliers du côté de la 40 avec de l'asphalte qui va être trop froide pour être posée puis être capable d'être bonne et tolérable pendant plusieurs années. Et donc, on va avoir à réinvestir dans un secteur qui n'était pas névralgique, qui était dangereux.
Les gens utilisent de l'asphalte cheap qui ne tient pas longtemps. Ce qui fait en sorte que tu dois retourner travailler. Ça coûte jamais cher de la shot, mais quand tu y vas 12 fois au lieu d'une fois, ben la facture à la fin de la ligne est plus chère.
C'est surtout la température à laquelle que tu la poses.
Ouais. Ouais.
Fait que là, on serait stupide parce qu'on va falloir qu'on gère la chose tout de suite. On n'est pas trop stupide, mais ça sera pas bien fait.
Ce qu'on nous a dit, c'est que quand il y a des gros chantiers là, qui impliquent le ministère des Transports et tout ça, il y a toujours un inspecteur qui est là pour vérifier la qualité des travaux, pour être sûr et certain que tout soit droite. Et ce qu'on me mentionne, c'est que des fois, l'inspecteur est appelé à l'autre bout du chantier parce qu'il y a une benne qui niaise là depuis trop longtemps. L'asphalte n'est plus nécessairement à bonne... ou le béton n'est plus nécessairement à bonne température ou l'asphalte, puis on décide de le couler pareil. Mm. Là, quand l'inspecteur revient, il dit « Hey, t'as peu, j'ai pas eu le temps de faire mes prises de température. Hey, je suis désolé, fallait justement que ça soit à bonne température, on n'avait pas le temps de t'attendre. »
On fait ça tout de suite.
Fallait procéder.
Il y a des trucs qui se font comme ça, mais tu sais, en fin de semaine, j'étais vendredi soir, j'étais dans le secteur de Montréal, Denis, puis les routes sont pas plus belles à Montréal qu'ici.
Non,
c'est,
non, non.
C'est des roulières à n'en plus finir, c'est l'eau qui s'accumule dans ces dites roulières-là. Je me souviens pas d'avoir vu autant de panneaux électroniques qui mentionnent risque d'aquaplanage à Québec et à Montréal. C'est fou à quel point il y en a. Puis on glisse pas mal plus qu'on glissait avant. Puis pourtant, on semble avoir de meilleurs pneus qu'on avait avant. Avant, on avait des quatre saisons qu'on roulait ça à l'année tout usé.
Le nombre de véhicules et le nombre de véhicules lourds qui passent dans une année a énormément augmenté. On a bien beau dire qu'il y a plus de vélos. Oui, il y a plus de vélos, mais il y a plus de chars aussi. Puis c'est une tendance qui est irréversible encore pour au moins 10 ans. Mais il me semble qu'on devrait justement prévoir ces statistiques-là qu'on a d'en face depuis 10-15 ans. Puis travailler en fonction de faire du béton, de l'asphalte, tout ça, que ce soit plus résistant, justement, pour qu'on se ramasse pas avec des canyons. Là. Tu peux même plus parler de...
Sur dans... Laurentienne?
Hein, ça n'a pas de bon sens. Laurentienne, en montant, tu es aussi bien de garder ta traque comme faut parce que...
Ton char variole un peu d'un bord et de l'autre.
Il va tomber sur le toit là, s'il débarque des étrières.
Il y a Christian, qui nous écrit du bientôt, il va y avoir un panneau électronique qui va dire « Attention, risque de décollage. » Oui.
Est-ce qu'on sait si le gars de la tondeuse va perdre sa job ou...
Qui a découvert le trou?
Tabarnouche.
C'est un excellent commentaire qu'on a reçu.
Il devrait être médaillé à l'Assemblée nationale.
Ouais, ça se peut qu'il...
Je sais pas, mais je reviens là, sur l'idée que ça va prendre des semaines avant de réparer cet endroit, à cet endroit-là. Je trouve ça hallucinant. Ailleurs, on lésine pas. Là.
Ouais.
On arrive avec les pépines, on creuse, on met le tuyau, on remet le matériel, on recoule l'asphalte. Merci, bonsoir. On est parti, on passe à d'autres choses. Ici, on va se poser des questions, on va faire un comité, on va payer le café. Les petits beignes de chez Homer, sont-tu bons? Et boy! Fait qu'on va faire venir plusieurs beignes de chez Homer, puis
On aime ça lésiner, nous autres.
Oui.
Je lisais un texte ce matin là, sur les biologistes qui sauvent les hirondelles dans le secteur du pont de l'île d'Orléans. Là.
Les huîtres aussi!
Les huîtres, ben oui!
Les moules!
Il y a une moule! Il y a une moule que si on les perd dans le coin du pont de l'île d'Orléans, il n'en reste plus, là.
Jamais!
Non! Fait que ce moule-là, là... Faut la protéger.
Puis il y a des moules taguées en plus dans le Saint-Laurent, ce que je savais pas.
Beaucoup d'espèces taguées, ça me surprend quand t'es pas tagué.
Quand ils récupèrent des moules pour les reconnaître, ils les taguent avec un petit bout de métal. Tu l'as vu le reportage?
Belle moule.
Puis comme Denis l'a dit, il y a de la nidification qui se fait sur le pont de l'île d'Orléans, ce qui fait en sorte que pour le nouveau pont, faut prévoir des endroits où les oiseaux pourront faire de la nidification.
Parce qu'il y a moins de piliers. Le nouveau pont pour que ce soit plus écologique, mais parce qu'on enlève des piliers, on enlève des spots pour les hirondelles.
Mais c'est quand même vraiment intéressant.
Oui, oui.
Mais il faisait... Vous n'avez pas une mini-part d'intérêt ou de respect ou de... Il n'y a pas un pourcent. Je peux-tu aller en chercher un chez toi et un chez toi pour
c'est
qu'on en fasse deux?
C'est super intéressant, mais on comprend pourquoi on lésine puis que tout est plus long puis que tout est plus cher.
Oui. Puis je me dis qu'avant qu'on fasse des ponts, là, les oiseaux existaient pareil. Ils faisaient leur nid où, Pascal?
Bien, justement, des endroits où il y avait la possibilité de le faire.
Donc, mais si t'enlèves le pont...
OK, toi, un être d'habitude, là, OK? Je te sors de ton Saint-Roch, là, mon Dieu, t'es
mon
allé... Hey, là, t'as osé cette année, mais quel homme, hein? Il en est sorti de ses pantoufles, là, et le Fantex a pris le bord, il est rendu dans Saint-Roch, commence à aller au resto, il prend du vin. Si je te sors de tes habitudes, là, avant cette bouffée de nouveautés de ta vie, tu fais quoi? Tu trouves ça tough? Bien, c'est des animaux. Moi, je trouve que c'est super intéressant.
Pauvre moule!
On pourrait considérer quand même tout ça, malgré tout. C'est comme le caribou forestier. Il faut le considérer.
J'ai une question.
Pascal, je juste terminer. Là. Quand ils vont construire le nouveau pont, là, si ce pont-là ne fait pas l'affaire des hirondelles, je te garantis qu'ils vont aller fourrer ailleurs.
Mais c'est un raccourci.
L'humain aussi se trouve un spot à fourrer.
Hein?
S'il n'y a pas son spot à fourrer, il en trouve un autre.
C'est un raccourci intellectuel. Moi, ce que je dis, c'est quand même intéressant de savoir la faune et la flore. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit... Mais je comprends qu'on n'arrête pas nos projets pour. Mais on peut le considérer.
J'ai une question écologique et intellectuelle. mettons qu'on ne sait pas que cette espèce de moule existe et qu'elle disparaît. À quel point, d'après toi, on s'en calisse?
Mais nous autres,
on le sait pas, là. Est-ce qu'on s'en rend compte dans l'écosystème? Hey, tabarnane, on a perdu une moule.
OK. Tu comprends? Les araignées, là, quand ça te tombe sur la tête dans le char, t'es aimes pas?
Non.
Mais ça sert à quelque chose dans l'écosystème. Fait que tu l'haïs, t'as swing le bord de la fenêtre.
Oui, mais la moule, il en reste d'autres sortes, là.
Denis, on ne le sait pas, nous ne sommes pas experts de la moule.
C'est la loi,
moi, je ne le suis pas.
C'est
si
la
jamais.
Loi de la moule la plus forte. Si la moule n'est pas capable de passer à travers une construction de pont, elle n'est pas faite pour rester des nôtres.
En train d'aimer les moules, oui. Vous en parlez à raison, à tort, vous en parlez quand vous pouvez.
Il y a de moins en moins de bars à moules, d'ailleurs. Pierre-Luc.
Respectez les moules.
Pierre-Luc, qui nous mentionne au 418-971-1021, c'est à cause des gens hypersensibles comme Pascal qu'on se ramasse à payer pour des moules.
Ah, franchement, moi, ce que je dis, c'est que peut-être qu'il y a vraiment une roue d'écosystème, puis on peut pas se prononcer parce qu'on ne le sait pas.
Ouais,
parce peut-être que ça a plus d'impact.
Juste à dire.
Sauvons les moules.
Actuellement, par texto, il n'y a pas grand gens de ton bord.
Ben, c'est pas grave, c'est correct. On a un débat. Est-ce qu'on cherche à faire l'unanimité? Non, moi, ce que je dis, c'est que ça peut être intéressant de savoir plus. Si vous me dites que ça change rien.
Il y a un nouveau parti au municipal, c'est le parti Sauvons les moules de Pascal CV.
Mais tu sais, je regardais. Moi, j'aime beaucoup la faune marine, là. Je fais de la plongée sous-marine. J'adore ça. Mais je regardais les gars, les biologistes qui travaillent. Puis eux autres, dans leur journée, ils taguent des moules.
Ouais.
Ouais, mais là, ils font pas juste ça. Là, Yannick, c'est pour ça que j'aime pas ça parler avec vous autres.
Moi, j'aimais mieux les taguer d'un bar à moules, là, d'un 5 à 7.
Vous êtes deux contre une moule en ce moment. Deux contre une moule, puis je trouve ça vraiment déraisonnable.
Deux contre. Jamais que j'aurais fait ce parallèle-là. Tu vas trop loin, Pascal.
Non, mais une moule, c'est elle du fleuve.
On est parti. Radio Business. Le meilleur rock de la